Test de Bechdel. Non, Bechdel, ça me dit rien du tout.
Ouais, moi je crois que des fois, le fait de tenir la comptabilité en permanence devient un frein à la spontanéité des échanges, je pense, des fois.
Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Zoom Zoom Zen, 2 heures chaque après-midi pour décrypter notre époque à travers ses mots, ses expressions, ses concepts aussi aujourd'hui à une semaine des Césars. Et qu'est la cérémonie de la honte cette année puisque notre court-métrage En route pour Rouen n'a été sélectionné dans aucune catégorie malgré la qualité des dialogues et de l'interprétation.
Bah oui, parce qu'il revient sur ses terres, la Normandie.
Oh là là, dans la salle il y aura toute sa famille.
Marguerite, c'est toi ?
À l'approche donc de cette cérémonie des Césars, on va zoomer sur un test qui permet d'évaluer la place des femmes dans un film. Ça s'appelle le test de Bechdel. Ne bâillez pas, Manon. Je sais que le nom vous évoque une expérience en TP de chimie quand vous étiez au lycée. Après toutes ces années, vous pouvez d'ailleurs l'avouer, c'est vous qui aviez volé l'alcool à 90 pour concocter des shooters à vos camarades à la récré. Mais non, le test de Bechdel, c'est un test simple en 3 questions qui permet de savoir si un film accorde une vraie place aux actrices ou bien si elles y servent de faire valoir pour les rôles masculins. Il y a un film que vous connaissez tous ici qui, par exemple, obtient la belle note de 0 à ce test de Bechdel. C'est bien évidemment l'opération Cornet Beef.
Scandale.
Chef-d'œuvre de Jean-Marie Poiré qui a à peu près aussi bien vieilli que Tintin au Congo, et qui obtient malgré tout 2 commentaires notés 5 sur 5 sur Allociné, Reno et Clavier au sommet de leur art, et Les Bonnes Femmes très bien aussi, Cyril L, Ponto Combo, et une comédie comme on n'en fait plus, mon film préféré avec 2012 de Roland Emmerich, Quentin L, Alençon. L'opération Cornet Beef, qui avec ses répliques potaches, sexistes et parfois même grossophobes, fait encore donc le bonheur de certains cinéphiles pointus, comme nos 2 loustiques qui vont jusqu'à se regarder des extraits sur leur portable pendant l'émission, au moment des disques, l'autre jour encore ils m'ont fait honte.
Oh, je suis d'accord pour que refiler cette nénette. Allez, je t'offre mon billet pour venir. Tu vas voir, tu vas te régaler.
L'invité, une dame venue nous parler de la parité en politique, m'a demandé mais que font-ils ? J'ai été obligé de lui dire la vérité. Bah, il regarde l'opération Cornet Beef. Alors, pourquoi ce film a obtenu 0 au test de Bechdel ? Pourquoi bien d'autres films y ont lamentablement échoué aussi ? Comment fonctionne ce test ? Est-il pertinent ? Zoom Zoom Zen, c'est parti.
France Inter. Zoom Zoom Zen. Noël.
Et bonjour Sylvie Piala.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Inter cet après-midi. Sylvie, vous êtes productrice à la tête des films du Warsaw. On dit Warsaw d'ailleurs ?
Absolument.
On dit le Warsaw. Votre boîte de prod, vous avez produit des grands succès comme L'Inconnu du Lac, À perdre la raison, Timbuktu. Votre dernier film, Partir un jour, réalisé par Amélie Bonin, est nommé 4 fois au César. La cérémonie, c'est donc jeudi en 8, l'occasion de faire le point avec vous sur la place des femmes dans le cinéma français. Pour avoir des éléments objectifs à ce sujet, il existe donc un moyen fiable, c'est le test de Bechdel. De quoi s'agit-il ? Est-ce qu'il fonctionne à tous les coups ? Est-ce que les femmes ont plus de place, ont plus de premier rôle ? Est-ce que leurs personnages ont changé depuis MeToo ? On va en parler ensemble cet après-midi. Juste le temps de vous présenter mes fidèles complices, 2 authentiques amoureux du 7e art. L'un connaît tous les films de Jean-Marie Poiré par cœur, l'autre a failli jouer avec François Civil. Quentin, lui, Manon Mariani, bonjour.
Bonjour.
Bonjour
à tous, ça faisait longtemps.
En fait, Manon, vous étiez au cours Florent, il faut le rappeler, avec François Civil. Ouais. Est-ce que vous avez déjà eu une scène à jouer avec lui ? Est-ce que vous lui avez déjà donné la réplique ?
C'est pas possible. Mais non, il était déjà en tournage. Il y a eu un rôle muet.
Très bien. Maintenant, désormais, c'est dans le journalisme que vous excellez. Chaque après-midi, vous nous envoyez une pièce verte.
Oui, un réalisateur, producteur, scénariste américain aujourd'hui. Il est notamment connu pour avoir mis en scène des personnages féminins forts qui ont changé la vie de pas mal de femmes, dont moi.
Bah là, il faut dire qui c'est.
Il faut dire qui c'est.
Je sais pas, non.
Bah
non,
pourquoi mais...
Parce que j'aime pas ce principe du teaser.
Bah, dites-le,
suspense.
Vous, dites-le.
Mais il sait pas, justement.
Je vais répondre.
C'est le... C'est le réalisateur de...
Jérém Star. Grosse culture cinématographique.
C'est le créateur de Sex and the City, voilà, pour ceux qui ne le savent pas.
Et vous, que pensez-vous de ce test de Bechdel ? Que pensez-vous de la place des femmes au cinéma ? Notez-vous une amélioration depuis l'époque de l'opération Cornet Beef ? Ou bien restez-vous encore sur votre fin en termes d'égalité femmes-hommes à l'écran ? Quentin est allé vous poser la question dans la rue.
Alors, Bechdel, on est passé un peu par toutes les prononciations. Est-ce que ce test, qui a plus de 40 ans, colle encore à notre époque ? J'ai posé la question à des jeunes, à des moins jeunes. Vos réponses, vos sentiments et vos conseils ciné aussi, c'est dans la prochaine
Vers 16h30, nous partirons à la découverte de ces films qui non seulement se plantent au test de Bechdel, mais qui ont d'autres problèmes tout aussi graves, comme l'absence de scénario, l'incohérence de l'histoire, l'abomination des décors ou encore la nullité des dialogues.
Mais d'où vient ce foutu serpent de merde ?
Il a bondi des toilettes.
Oui, le Zoom Zoom Test sera consacré aujourd'hui au pire nanar de l'histoire du cinéma. Après 17h, restez avec nous puisqu'on va scanner l'actu de ce 18 février et on fêtera les 80 ans, non pas de Cyril, ça sera dans quelques jours, mais du journal L'Équipe, premier quotidien sportif de France avec un pilier de la rédaction, Vincent Duluc. Mais d'abord, donc Sylvie Piala, zoom sur cette notion, ce test de Bechdel. Déjà, lorsque vous vous signez pour produire un film, est-ce que la place des femmes dans le scénario, c'est une des premières choses que vous regardez?
Non.
Pas du tout.
J'ai pas dit pas du tout, mais j'ai dit
c'est
non.
Pas la première chose.
J'aurais été mieux sur L'Équipe, le journal, je pense.
C'est vrai. Oui, vous intéressez beaucoup au sport, j'ai l'impression aussi.
On vient de gagner la médaille d'or. Enfin, je pense que c'était dans le journal, mais les filles au relais en biathlon. Voilà, bon, bref.
C'est une info exclusive.
non, c'est pas la première chose que je regarde, mais le test, il est un peu succinct. Enfin, je veux dire, il date de 85, c'est ça?
Cyril va nous raconter.
Oui, c'est ça, 85. Ouais, c'est ça. Mais je trouve ça marrant qu'on ait pensé à le faire, parce qu'effectivement, si on voit aujourd'hui, enfin moi, même moi, depuis que j'ai commencé la production, j'entends, c'est-à-dire en 2004-5, même moi, les films que je produis, on se rend compte, enfin il y a une espèce d'évidence de l'entrée des femmes comme réalisatrices, mais pas que comme réalisatrices. Mais déjà, moi, comme productrice, parce qu'il y a eu le prix Toscan du Plantier, dont tout le monde se fout sans doute, mais qui est donc un prix qui récompense le meilleur producteur de l'année, depuis peut-être la mort de Toscan, même un peu plus tard. Et je regardais hier, parce que c'était avant-hier la remise, je regardais qui avait eu le prix, et on s'aperçoit... Moi, je l'ai eu en 2014 et 2015, et j'étais la première femme. Et depuis, il y a énormément de femmes. Et depuis quelques temps, les toutes dernières, et d'ailleurs encore lundi dernier, ce sont des femmes qui l'ont. Donc, il y a quelque chose qui vient aussi du temps que ça prend, en fait. Moi, j'ai été une grande activiste féministe dans ma jeunesse, ce qui, en général, ne vous quitte pas. Mais c'est vrai que le monde du cinéma n'était pas l'endroit où je regardais le plus comment ça n'allait pas. Et je trouve que ça va toujours pas du tout dans l'endroit où c'était déjà quand j'avais 15 ans.
Mais ça s'améliore quand même.
Oui, ça s'améliore plus vite dans le cinéma que dans le reste de la vie, en fait.
Les femmes ont toutes leur place au cinéma. Sinon, qui servirait les Esquimaux à l'entracte? Ainsi parlait Gaston Lacarrière, le grand-père de Cyril qui l'avait amené à la première de Dumbo en 1943. Un grand-père qui a donc eu une forte influence sur son petit-fils qui essaye de vivre avec son temps, mais c'est dur. Cyril, racontez-nous donc, car il faut poser les bases, le test de Bechdel, d'où ça sort?
Imaginez, vous êtes au cinéma, Rocky, vous regardez
les grosses têtes, on sait pas.
Blockbuster, Rocky, vous regardez le dernier blockbuster en date, tout est là, explosion, héros musclé, enjeu planétaire, en sortant. Une question revient, est-ce que dans ce film, des femmes ont existé autrement que par rapport aux hommes? Eh bien, il existe une manière certaine pour le savoir, et bonne nouvelle, il s'agit de juste trois petites questions, c'est le test de Bechdel. Ce test, il ne sort pas d'un laboratoire de recherche, mais d'une bande dessinée. Nous sommes en 1985, l'autrice américaine Alison Bechdel publie une planche dans sa série Dykes to Watch Out For, les lesbiennes à suivre. La planche s'appelle The Rule, la règle. On y voit deux femmes qui veulent aller au cinéma. L'une dit à l'autre, j'ai une règle, je ne vais voir un film que s'il répond à trois exigences basiques. Il doit y avoir au moins deux femmes dans le film qui portent un nom, pas juste la serveuse. Elles doivent parler ensemble à un moment de l'histoire et elles doivent parler d'autre chose que d'un homme. Sur le papier, c'est facile. Dans le monde du cinéma, c'est très compliqué.
Alors, qu'est-ce qui révèle ce test?
L'ampleur du désastre. Quand on l'applique, on réalise que la moitié des classiques du cinéma échouent lamentablement. La trilogie originale des Star Wars, échec. Le Seigneur des Anneaux, échec. Même des films catégorisés pour filles ratent le test parce que les héroïnes passent leur temps à parler du héros masculin. Si Alison Bechdel a imaginé ce test, c'est en pensant à Virginia Woolf. Dans son essai Une chambre à soi, paru en 1929, la romancière remarquait déjà que dans la littérature, les femmes étaient presque toujours présentées dans leur relation aux hommes, jamais comme des amis ou des collègues. Alors, d'où ça sort le test de Bechdel? Eh bien, d'un impensé du cinéma, la place des femmes, et c'est le début de notre histoire.
Merci beaucoup Cyril, et on aura noté effectivement que pour vous, le dernier blockbuster, puisque ce sont vos mots, c'est donc Rocky. Ça commence à remonter un petit peu comme référence, mais pourquoi pas, Cyril? Pourquoi pas? Merci quand même. Sylvie Piala, est-ce que vous, de manière très, très posée, vous utilisez ce test de Bechdel à un moment, quand vous montez un film, ou vous le faites à l'instinct?
Non, je ne l'utilise pas, mais justement, avec l'arrivée des femmes réalisatrices principalement, et des scénaristes aussi, y compris quand elles travaille pour un réalisateur, ça change, de fait. Ça change parce que les histoires à raconter sont quand même les histoires qu'on vit. Enfin, quand on fait du cinéma qui ne soit pas un cinéma historique, c'est sûr que si on fait un film historique, c'est complexe. Après, on peut choisir. C'est complexe parce qu'on est à la place où on était, mais après, on peut choisir des héroïnes qui ne sont pas à cet endroit-là. Mais donc, il y a quelque chose qui est, je dirais, mais forcément que ça. Comment dire ? Je ne dirais pas que c'est un critère pour choisir. D'ailleurs, on ne choisit pas tant que ça les films qu'on produit, il faut aussi l'expliquer. Mais enfin, on ne choisit pas, on les choisit, mais enfin, ils arrivent à nous d'une façon.
Et on sélectionne.
Oui, puis ils arrivent à nous par des gens souvent qu'on connaît. Enfin, je veux dire, c'est très rare de recevoir quelque chose qui vient de nulle part. Mais je pense qu'aujourd'hui, je suis à peu près sûre que ça me choquerait. Et d'ailleurs, on le dit souvent, ou sur les femmes dans un script. Hein. Après, il y a vraiment des histoires où c'est complexe.
Pardon, vous dites, ça vous arrive encore souvent aujourd'hui de dire où sont les femmes dans ce script
Où sont les femmes dans ce script. Ou alors, franchement, il va falloir retravailler le rôle des femmes parce que c'est non existant.
Ça vous est déjà arrivé de refuser, par exemple, de produire un film où vous avez fait ce constat?
J'arrive pas jusqu'au stade où je dois dire oui ou non. C'est-à-dire que c'est en fait.
C'est bien en amont.
Oui, c'est en amont. C'est en amont. Mais c'est vrai que parfois, il y a une faiblesse sur les rôles féminins. Alors souvent, quand c'est écrit par des hommes, parce qu'il y a un petit souci, même quasiment à imaginer ce qu'on est, en fait. Enfin, ou à le constater, ou à arriver à le dépeindre, le décrire, à faire parler, etc. Mais bon, il y a aussi beaucoup de films où les rôles masculins sont mal écrits. Hein, donc c'est pas... mais c'est vrai que c'est quelque chose quasiment maintenant que je... Ben, je produis de plus en plus de femmes aussi. Donc c'est... Enfin, en fait, c'est quelque chose qui arrive... Je dirais presque naturellement, ça s'impose maintenant.
On a vu en quoi consistait ce test de Bechdel. Est-ce qu'aujourd'hui, un film qui passe, entre guillemets, le test de Bechdel, c'est un film féministe ou c'est juste un film normal de 2026 voilà.
Je pense que c'est un film normal, mais elle-même le disait, la fameuse écrivaine de BD. Là. Elle disait que le principe n'était pas de voir si le film était féministe ou féministe. C'est vraiment, deux femmes peuvent parler entre elles, sans parler d'hommes, et sans que ce soit sans que le féministe soit, je veux dire, le terreau. Mmh. Mais disons que je pense que quand même pas mal de cinéastes femmes, de productrices femmes, parce que maintenant il y a aussi beaucoup de jeunes productrices femmes, je pense que c'est un enjeu quand même. C'est un enjeu pour une génération que ces enjeux-là soient clairs, définis et soient dans les films.
Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël sur France Inter.
Connaissez-vous le test de Bechdel? Une semaine avant la cérémonie des Césars, quelle place pour les femmes dans le cinéma français? C'est un peu ce que permet de mesurer ce test. On en parle avec la productrice Sylvie Piala. Il y a un film qui passe haut la main ce test de Bechdel. C'est celui que vous avez produit, Partir un jour, avec notamment Juliette Armanet. Elle est nommée donc 4 fois au César. Manon s'insurgeait en antenne. Elle pousse un énorme coup de gueule, Manon.
Oui, sur le fait que Juliette Armanet ne soit pas nommée dans la catégorie meilleure actrice alors qu'elle tient tout ce film. Voilà.
Effectivement.
Parce qu'on a déjà beaucoup passé un bouillon par ailleurs, mais voilà. Ouais.
Ça ne va pas vous arranger avec l'Académie, mais pas de problème.
De toute façon, vous étiez grillé. Il faut parler de l'histoire de ce film, qui était d'abord un court-métrage. Mm-hmm. Il y a eu une évolution dans les rôles, dans la distribution des rôles.
Oui, absolument. Donc Amélie Bonin, la réalisatrice, a fait ce court-métrage où donc, le rôle principal est tenu par Bastien Bouillon et le rôle secondaire féminin est tenu par Juliette Armanet. Et donc ce court-métrage a eu beaucoup de succès, beaucoup de prix. Et donc elle a fait une tournée et répondu à énormément de questions. Et il se trouve que lors d'un festival, il y a quelqu'un dans le public qui lui a demandé, parce que c'est quelqu'un quand même qui est très engagé, Amélie aussi, et lui a demandé pourquoi son personnage principal était masculin. Et en fait, elle n'a pas du tout su répondre à cette question.
Ouais.
Et en tous les cas, ça l'a secoué. Et n'arrivant pas vraiment à répondre à cette question et se demandant elle-même comment ça se faisait, en tous les cas, il a été évident pour elle qu'en écrivant le long métrage, le personnage féminin serait le personnage principal.
Voilà. Tous les ans, on va parler de chiffres et de manière concrète, parce que tous les ans, il y a une étude qui est faite sur la présence des personnages féminins dans les premiers rôles. En 2024, pour la première fois, il y a eu autant de premiers rôles féminins que de premiers rôles masculins dans les 100 films les plus vus de l'année. Ça, c'est une augmentation de 30% par rapport à 2023, et c'est le double par rapport à 2007. Comment on explique cette petite révolution dans le monde du cinéma? Vous le disiez, les réalisatrices aussi, mais peut-être la société qui change.
Oui, bah sûrement. De toute façon, les métiers, c'est-à-dire que voilà, enfin, il y a quelque chose qui permet aujourd'hui sans doute d'écrire des rôles féminins principaux plus facilement. Les actrices aussi, je pense. Je pense qu'il y a des actrices qui ont des envies de jeu aussi. Et qui, je veux dire, les acteurs ne commandent pas les films, mais il y a quand même quand il y a des envies qui sont posées, ça, voilà, ça inspire les réalisateurs et les réalisatrices aussi. Et oui, bien sûr.
Il y a eu un avant et un après Me Too aussi.
Sûrement, bien sûr. Bah, c'est-à-dire que c'est quand même ça qui a fait un peu la révolution dans le cinéma, mais qui était quand même commencé, heureusement. Enfin, par exemple, vous voyez les techniciens, les techniciennes. Voilà. Après, c'est vrai qu'il y a encore des choses à
franchir. C'est paritaire sur un tournage.
Pardon.
C'est paritaire sur un tournage.
De plus en plus, oui.
Ouais.
De plus en plus.
Même les techniciens.
Sur le film plus en plus. Enfin, je veux dire, vraiment, c'est quelque chose à quoi on fait attention. Après, alors là, il y a des bonus au CNC, le Centre National du Cinéma.
Oui, justement, il va y avoir
un malus.
Bonus-malus, oui.
Mais disons qu'il y avait un bonus parité, c'est-à-dire que les films qui remplissaient, alors c'est un système de points selon les postes, etc., qui remplissaient ça, avaient un bonus sur le... On ne va pas partir dans l'explication de ce que c'est que le fonds de soutien généré, mais là, en fait, comme il trouve que ça n'enclenche pas assez fort, il va y avoir un malus quand ça ne sera pas le cas.
Vous dites aussi que la parité est aujourd'hui respectée parmi les étudiants de la FEMIS, célèbre école de cinéma. Ça veut dire que mathématiquement...
Je pense que même la FEMIS, s'il n'y avait pas un quota de garçons, il y aurait peut-être
des
filles.
Plus de femmes. Mais le cinéma va peut-être devenir... On va dépasser l'étape de la parité, il y aura peut-être plus de femmes réalisatrices et productrices demain que d'hommes.
C'est possible, de toute façon, vous voyez bien, même la Lune, enfin bon, il y a tout qui bouge. Hein. Donc c'est vrai que ça prend du temps.
L'autre bataille, et pas des moindres quand même, c'est quand même l'égalité salariale. Les écarts de salaire sont très importants dans le cinéma entre les hommes,
et les femmes. Uniquement les acteurs et les actrices.
Uniquement entre... d'accord. Donc pas du tout dans les métiers de la technique.
Il n'y a qu'une seule grille de salaire.
Ouais.
Alors après, facialement, en tous les cas, il n'y a qu'une seule grille de salaire. C'est un chef opérateur femme ou un chef opérateur homme gagne la même chose.
Après, c'est quand même aussi scandaleux que les acteurs et les actrices ne gagnent pas la même chose.
Oui, mais c'est pas la...
Je comprends.
Des métiers, c'est quand même rare qu'il n'y ait qu'une seule grille de salaire. Après, acteur, actrice, je crois que ça demeure de moins en moins aussi. Aux États-Unis, je crois qu'ils y sont presque arrivés. Mais longtemps, ça a été eux, vraiment, la grosse différence, elle était là.
Mais c'est tabou ?
Sur la vedette. Je dirais plus sur les vedettes même que sur les rôles secondaires.
Mais comment on gère ça justement en tant que producteur ? Moi, enfin, je sais pas, ça me ferait rêver d'être producteur du cinéma, mais par contre, je serais terrifié au moment de cette négociation avec les stars, enfin, en fonction de leur degré de notoriété. Qu'est-ce qu'on peut leur proposer ? Qu'est-ce qu'on peut tolérer ?
Vous n'arriverez pas à parler d'argent ?
Non, j'aurais beaucoup de mal.
Vous savez, moi, je fais des films d'auteur, donc des films d'auteur, on n'a jamais le budget qu'on devrait avoir, donc on est toujours en train de chercher des économies. Donc j'avoue, j'ai jamais été confronté à la vedette qui exige, c'est-à-dire peut exiger, mais
elle l'aura pas.
Elle l'aura pas. Et donc ça, c'est vrai que de toute façon, tout est discussion.
Mais attendez, Marion Cotillard, par exemple, elle vient gratuitement ?
Elle vient pas gratuitement, mais sur le film d'Emmanuel Berco, franchement, les efforts sont faits vraiment par tout le monde pour qu'on arrive à tourner ce film.
Pardon, là je parlais du film d'Emmanuel Berco, qui est actuellement en tournage.
Les plus gros efforts, c'est quand même les producteurs qui les font, faut le savoir. C'est pour ça que vous allez moins rêver.
Je vais moins rêver, bon, j'arrête de rêver, je reste à ma place. Lui, sa carrière d'acteur fut pareille à la trajectoire d'une météorite. Montée trop haut, trop vite, jusqu'à ce rôle du lieutenant Charles Taylor, dont les répliques s'étaient avérées beaucoup trop compliquées pour sa bouche.
Ici le lieutenant Charles Taylor. Les appareils sont affolés.
Quentin, aujourd'hui, vous avez effectué un repli stratégique sur votre activité de journaliste.
Ouais.
Chaque matin, vous faites réagir les passants à notre notion du jour. Alors, le test de Bechdel.
J'observe la rue. C'est un peu mon film du quotidien. À chaque passant pourrait être un personnage. Par exemple, cette femme qui marche d'un pas déterminé. Ses cheveux d'un roux éclatant se posent sur sa veste en cuir noir. C'est ma première rencontre et c'est...
Ingrid.
Ingrid, vous faites quoi dans la vie ?
En ce moment, je réfléchis à ce que j'ai envie de faire du reste de ma vie. Je gère une entreprise et je cherche... un nouveau projet.
Très bien.
Ouais.
Vous êtes le personnage principal de votre vie, vous.
Exactement.
Exactement. Elle découvre le thème qui nous intéresse aujourd'hui dans Zoom Zoom Zen.
Alors, qu'est-ce que je dois faire ? Je dois lire ? Le test de Bechdel, un simple qui permet d'observer la place des femmes dans une œuvre de fiction, notamment au cinéma.
Donnez-moi un film avec deux personnages féminins.
Ouais.
Ça, on peut l'avoir.
Ouais.
Et lorsqu'elles parlent entre elles, elles parlent d'autre chose que d'un personnage masculin.
Là, je l'ai pas. J'ai une pièce de théâtre avec quatre femmes, ça marche ou pas du tout ? Faut que ce soit un film.
Parlez-moi de ça, alors.
Je pensais aux Filles aux mains jaunes de Michel Bellier. Quatre femmes, dont le thème n'est pas les hommes, mais plutôt l'émancipation des femmes pendant la Première Guerre mondiale.
Bon, j'avoue que j'avais pas la ref.
Ouais,
je lui demande si c'est important ou si on en fait trop avec ce genre de test.
Ouais, moi je crois que des fois, le fait de tenir la comptabilité en permanence... devient un frein à la spontanéité des échanges, je pense, des fois. Ou en tout cas, que le regard qu'on peut porter sur une œuvre, qu'elle soit artistique, littéraire, cinématographique, pour moi, le prisme, c'est pas l'interaction entre les hommes et les femmes, mais c'est l'intérêt du sujet, peu importe que ce soit des hommes ou des femmes. Je m'en fous.
Avant de la laisser filer, un rôle féminin qui l'a marqué dans sa vie.
Meryl Streep.
J'étais sûre. La maîtresse du temps français. Ah non.
Pourquoi ?
Parce que l'histoire, elle est complètement folle, justement, ouais. Qu'une mère ait l'obligation de choisir entre ses deux enfants et quelle sera leur destinée. Forcément, l'une sera très malheureuse puisqu'elle choisit de confier un de ses deux enfants aux nazis et pourquoi elle le fait et quelle est la réflexion, quoi.
Cette jeune femme, maintenant, un peu plus discrète, elle se cache sous son parapluie violet car la pluie a surpris tout le monde à Paris.
Est-ce qu'on se mettrait pas à l'abri ? Bonjour, bonjour.
Bonjour.
Quel est votre prénom à vous ?
Daphné.
Daphné, vous avez quel âge ?
17 ans.
C'est quoi votre truc à vous dans la vie ? Qu'est-ce que vous faites ?
La musique. Alors, là, actuellement, je suis au cœur de la maîtrise de Paris, mais là, je vais en cours de harpe.
En cours de harpe ? C'est rare.
Et tu mets Lady Gaga ?
Oui, à la harpe.
Oui.
C'est elle qui joue ?
Non.
Bah, bref, c'est l'art. C'est bizarre, où est-ce que
nous parlons du test de Bechdel.
J'avoue que comme je m'intéresse beaucoup au cinéma, j'ai quand même vu déjà beaucoup d'exemples où c'est pas le cas. Donc... Bah, c'est tellement bête. Mais j'ai vu une comédie musicale sur Netflix qui s'appelle Prom. Et du coup, c'est une histoire un peu LGBT. Donc du coup, la fille, elle interagit avec une autre fille mais parce qu'elles sont intéressées. Et puis même, en fait, il y a plein de personnages. En fait, c'est un peu différent. Et même dans plein de films comme, je sais pas, Chicago...
Toi, t'observes que c'est en train de changer.
Oui, ça change.
Et elle me parle également de la dernière grosse production qu'elle a vue.
Moi, j'avoue que j'ai regardé Une bataille après l'autre en blockbuster dernièrement et...
Alors, est-ce qu'il passe le test de Bechdel ?
Bah, je pense que oui, parce que du coup, il y a la fille. Après, elle cherche son père, donc du coup...
Ça fait un personnage.
Mais après, il y a aussi les femmes qui se battent pour pouvoir essayer de retrouver et de sauver la fille et le père. Aussi, mais...
Ça passe plutôt le test. Ma dernière rencontre, c'est...
Mathias.
Mathias, vous avez quel âge ?
19 ans.
Qu'est-ce que vous faites dans la vie ? C'est quoi votre truc ?
Je suis étudiant, à Bordeaux. Un STAPS. Test de... Bechdel. Non. Bechdel ? Ça me dit rien du tout.
Bechdel. Je lui explique déjà qu'il faut nommer deux personnages de films féminins.
D'actrice ou dans le film ?
Dans le film.
Ok.
Est-ce qu'elles parlent entre elles dans le film ?
Ouais.
Et quand elle parle entre elles, est-ce qu'elle parle d'autre chose que d'un personnage masculin ? Tu comprends ? Tu vois ?
Oui. Alors, je vais dire Hermione Granger et le professeur McGonagall dans Harry Potter. Et elle parle entre elles. Et d'autres choses que d'hommes. Pour lui.
Je réfléchis, mais ont-elles vraiment des échanges hors Harry et hors du soir Potter ?
Pas trop. Ouais. En plus, elle parle de Harry tout le temps.
Ouais, ouais. Ouais. Je lui demande un autre exemple.
Un autre film, allez.
Allez, vas-y.
Bah, la femme de ménage. Ah, mais j'ai pas le nom des actrices.
Non, des personnages.
Des personnages, non plus.
Mais c'est vrai.
Non plus, j'ai oublié, ouais. Et en plus, elle parle d'un homme.
Ça passe pas le test.
Non, ça passe pas le test.
Ça marche pas, la femme de ménage. Dans la rue, beaucoup m'ont répondu par des contre-exemples, des films qui passent le test, des héroïnes fortes, des dialogues qui existent. Et ils ont raison. Le test de Bechdel n'est ni une condamnation, ni une règle d'or. Le test de Bechdel, ce n'est pas de demander trop au cinéma, c'est juste de demander de faire ce qu'il fait de mieux, raconter la vie, toute la vie, la vraie.
Magnifique, Quentin.
Je vous en prie.
Sortez les violons. Sylvie Piala, est-ce que vous êtes surprise par les contre-exemples qu'on a trouvés dans la rue ? Les gens qui ont l'impression que ça change, mais en fait, ça ne change pas vraiment. Ils prennent des films, ils pensent que ça passe le test de Bechdel facile, puis en fait, on se rend compte, en discutant, en réfléchissant 5 minutes, que non, en fait.
Oui, c'est le plus compliqué, c'est quand elles parlent ensemble, est-ce qu'elles parlent d'autre chose que des hommes ? C'est ça qui est le plus marrant, en fait. Alors que... Bah, c'est-à-dire qu'en fait, des mecs qui parlent entre eux autre chose que d'une femme, c'est tout le temps. Et nous, à vrai dire, comme on a une tendance à l'amitié un peu différente, on parle de tout ce qui nous touche vraiment, et là-dedans, il y a les hommes. Mais je pense que... Non, maintenant, ça doit quand même un peu changer. Et puis après, quand elle dit les deux lesbiennes qui parlent d'une autre femme, oui, mais peut-être qu'elles parlent d'une autre femme qu'elles aiment, donc au bout d'un moment, on revient à la même chose. Mais... C'est assez drôle parce que le livre que vous avez cité, c'est Les lesbiennes qu'on doit suivre.
Oui.
Moi, je l'ai acheté, ça s'appelle Les Gwyn qu'on doit suivre.
Ah, ça, maintenant, ils ont changé la traduction, peut-être.
Bah, non, mais c'est drôle parce que ça a dû, je pense, changer quand même. Mais. Et elles sont super, les BD de cette femme, d'ailleurs.
Il y a plein de remakes aussi, j'y pense, là, qui sont faits.
Oui.
Je pense au Ocean's 11, Ocean's 8 avec des femmes.
Exactement.
Ghostbusters avec des femmes. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est un peu, on va se mettre à jour, on met des meufs dedans.
Ouais, mais en même temps, je pense que pour les actrices, c'est assez jouissif de se retrouver dans un remake de trucs qui a été joué que par des mecs. Et puis après, le remake, c'est toujours. On pense toujours que si on remake un succès, on fera un succès. Donc c'est vrai que quitte à remaker maintenant, autant faire ça. Oui, je sais pas. Ça me paraît moins quelque
chose
qui arrive.
Vous voyez ça d'un bon œil. Ouais.
D'un bon œil, non. Enfin bon, moi, je préfère quand même si on fait des sujets originaux. Oui. Mais c'est vrai que ça va être complexe. De ce texte, il est quand même assez complexe pour. Le passé, je pense.
Il y a un truc important que je sens à travers ce que vous nous dites, c'est que vous-même, vous n'appliquez pas, vous ne faites pas passer le test de Bechdel au scénario, à vos films, parce que le côté artistique doit quand même dominer. C'est-à-dire qu'à un moment, on se fait confiance à son bon sens, vous êtes une femme, vous travaillez avec des femmes, on ne va pas faire passer le test de Bechdel bêtement à tous les films, mm-hmm. en fait. Il ne faut pas tomber dans cet excès-là aussi, peut-être ?
Oui, mais parce qu'aussi, je pense que dès qu'on fait une histoire d'amour, par exemple, on tombe pas, enfin, ça ne collera pas.
Oui.
Mais on ne fait pas que des histoires d'amour non plus. Donc, dès qu'on est quelque chose où ça implique plus des métiers ou des situations qui n'ont rien à voir avec quelque chose comme ça, mm-hmm. ça doit passer plus facilement aussi.
Mais Ingrid, elle dit hein, qu'elle trouve ça presque dommage qu'on en arrive à compter. Est-ce que vous, quand même...
Bah dans la vie en général, c'est embêtant de compter, mm-hmm. non ? Je sais pas.
Ah oui, mais si on compte pas, au bout d'un moment, on n'aura pas la
parité. Oui, mais je suis d'accord. Pour la banque, par exemple, ça, c'est oui. sûr qu'il vaut mieux un peu compter. Mais... Et encore, mais... oui, non, mais... Enfin, c'est vrai que les règles, les obligations, les quotas, etc., c'est pas la panacée. Mais pour les femmes, pour les femmes, il y a un moment, alors pas pour tout, je pense, mais voilà, les conseils d'administration, la politique, les festivals, enfin, c'est évident qu'il faut en passer par là. Parce que sinon, il y a un moment où ça... Par exemple, quand on produit, c'est vrai que, en fait, longtemps, je me suis dit, bon, non. Enfin, moi, longtemps, j'ai répondu à la question, être une femme en production, est-ce que ça vous a... Non. Jamais ressenti ça, jamais eu la sensation de ça. En fait, il faut réfléchir un tout petit peu plus loin. Alors, je ne sais pas comment s'appellerait le test. D'abord, on s'empêche beaucoup plus facilement qu'un homme. On s'empêche, voilà. C'est le fameux, je ne sais plus comment ça s'appelle.
Syndrome de l'imposteur.
Syndrome de l'imposteur, exactement. Oui.
On s'empêche. Et par exemple, sur un film, parce que là, moi, c'est la première fois que je fais un film cher, c'est-à-dire au-dessus de 10 millions d'euros. Là, effectivement, on est beaucoup moins nombreuses et beaucoup moins nombreuses, surtout les réalisatrices.
À se sentir légitime.
Bah, pas sentir légitime à en faire. En fait, si vous prenez, là pour le coup, je sais pas quel test, comment ça s'appellerait, mais coup de film et qui réalise, là on s'aperçoit qu'en fait les femmes sont rarement à la tête d'un film cher. Et peut-être parce qu'elles s'empêchent de l'écrire même.
Alors, c'est très intéressant. Je rebondis sur une petite anecdote que vient de me livrer Cyril en régie, notre rédacteur en chef. Il me dit, dans les femmes qu'on contacte pour venir dans l'émission parler d'un sujet qu'elles maîtrisent, beaucoup se sentent pas légitimes pour en parler, alors qu'elles ont écrit des bouquins dessus, qu'elles ont des doctorats, alors que les hommes répondent toujours « Ah oui, moi j'arrive sur Inter, demain je suis là au micro, aucun problème. »
Oui, mais c'est exactement ça.
C'est
mais même moi, là, aujourd'hui, on m'a dit « Test de Bechdel », franchement, je suis pas sûr que je sois la bonne personne.
Oh, vous êtes parfaite.
France Inter. Zoom, zoom, zen. Mathieu Noël.
Le gai savoir, c'est aussi l'art de surprendre. Il était trop évident aujourd'hui de faire un quiz sur les films ayant passé avec succès le test de Bechdel, d'autant qu'il n'y en a que 8. Non, et puisque nous sommes en présence d'une productrice de talent, nous allons découvrir plutôt l'ensemble des pépites du 7e art qui, sans le courage ou l'inconscience de certains producteurs, n'auraient jamais pu voir le jour. Je vais vous lire le pitch de films niche pour les uns, iconique pour les autres, et vous devrez trouver le titre parmi 3 propositions. Wow. Et pour ne pas avantager Quentin, le Pierre Tchernia d'Alençon, il n'y aura pas ces films de chevet, Arrête de ramer, t'attaques la falaise, de Michel Caputo, évidemment. Et Touche pas à mon bignou de Bernard Launois avec Sim dans le premier rôle.
Allô, ma sœur ? Touche pas à mon bignou,
sa
mère me l'avait donné.
À la voix de Sim.
C'est un de vos préférés, je pense, Quentin.
Ouais, ouais,
je l'ai découvert à l'occasion de ce quiz. Jouons au Zoom Zoom Test spécial Nanar Inoubliable. Un quiz qui démarre dans ce pays qui vit au rythme du cinéma, la Grèce. Où nous sommes immédiatement transportés grâce à cette musique libre de droit intitulée Grèce joyeuse. On a l'impression de pouvoir toucher l'Acropole, et même Emmanuel Chin qui est toujours fourré là-bas. Je vous présente ce qui restera comme le chef-d'œuvre du réalisateur Panos Koutras, qui, plus que par ses effets spéciaux, vaut surtout par son pitch. À la suite d'une téléportation ratée, un rayon extraterrestre touche accidentellement une part de Moussaka. Très vite, elle se transforme en monstre, se dirige droit sur Athènes, écrasant, dévorant et projetant des geysers de sauce tomate mortelle sur son passage. Vous aurez évidemment reconnu le pitch de la Moussaka contre-attaque, Moussaka attaque ou l'attaque de la Moussaka géante.
B. Moussaka attaque.
La dernière.
C'est connu.
J'ai dit B.
Bah oui, la B, c'est Moussaka attaque.
Bah oui, c'était marrant.
Vraiment que c'est ça.
Ouais.
Bah, c'était effectivement marrant, mais le titre qu'ils ont choisi à l'époque, c'était l'attaque de la Moussaka géante.
Ah oui, bon bah.
Voilà. Sylvie et Quentin marquent un point.
Ah.
Réponse
en binôme.
Évidemment, on se devait de commencer par un classique.
Mais Quentin, il m'a déconcentré. Hein.
Le nanar, ça fait partie du jeu, Manon. Le nanar, par excellence, l'attaque de la Moussaka géante, sortie en 99, est presque aussi célèbre qu'un des premiers films dans lequel a joué Georges Clooney. Attention de ne pas donner les réponses avant que je les propose. Vous l'avez aimé.
Ça va, on est à l'abri.
Vous l'avez aimé dans Ocean's 11, vous allez l'adorer dans Le retour des courgettes maléfiques, le retour des tomates tueuses ou le retour des petits pois maudits.
Mais j'ai dit avant. Non, non,
largement.
Vous connaissez Sylvie?
Les tomates.
Évidemment. C'est la réponse B. Oui. Le retour des
points.
Le retour des tomates tueuses. C'est qui? C'est Sylvie qui a le point.
Oh non, 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 non.
C'est ce qu'on me dit en régie. J'ai l'impression que Cyril a un petit crush sur notre invité, Sylvie. Il lui offre les points. Très bien, alors c'est Sylvie qui mène. Un film que, étonnamment, Georges Clooney renie. Il fait pourtant partie d'une splendide tétralogie signée John DeBello. Il y est question d'un savant fou, le docteur Gangrène, qui, dans le secret de son labo, va créer une armée d'hommes et femmes tomates. Danger pour l'humanité, mais qui lui sont totalement dévoués. Un film dont les répliques n'ont vraiment pas pris une ride.
J'ai besoin de ton aide pour écraser la menace rouge.
Les communistes, hein?
Pire que ça. Des tomates.
Surtout la VF qui est vraiment succulente.
Mais c'est
John DeBello n'a jamais eu
la voix de Clooney, ça.
J'ai envie de voir.
Non.
Mais c'est pas son doubleur.
Non, c'est pas son doubleur qu'on a entendu. Quand je sais que vous aimez la précision, mais non. John DeBello qui n'a pas eu d'Oscar, mais il aura toujours notre reconnaissance éternelle. Remontons à bord du Air Force One de l'Informative Pleasure, direction la Californie. Où se déroule notre prochaine pépite. Attention, ça va pitcher. Dans un futur post-apocalyptique, un gang de surfeurs néo-nazis, emmenés par un certain Adolf et sa meuf Eva, sème la terreur sur une plage et tue un jeune afro-africain. Sa mère, apprenant sa mort, décide de sortir de sa maison de retraite et de le venger. Sans suite, une croisade violente. Ça a quand même plus de gueule que Sinners, n'est-ce pas Manon? Vous avez bien sûr reconnu, car c'est un incontournable de toute culture cinématographique qui se respecte, Surf Nazi Must Die. Wow. Surfing Adolf ou California Reich.
Ah, oh non, c'est très drôle.
California Reich, ça sonne bien.
J'ai dit A.
Mais vous avez dit A quand même. Ouais. Et c'est la bonne réponse maintenant. Ouais. Eh oui. Surf Nazi Must Die, une pépite qui emporte l'adhésion du public avec une note de 1,7 sur Allociné. C'est pas cher payé pour un scénario aussi original. Mais attention, n'en ayant rien à fiche de notre empreinte carbone, comme Manon aux vacances de Noël, on retraverse l'Atlantique direction l'Europe et plus précisément la Belgique. Ça va pitcher une fois. Rick Van Hout est inspecteur de police, il va enquêter sur le cas d'un sadique qui tue des jeunes beautés à coups de crayon dans le nez. Avec l'inexpugnable Leslie de Gruyter dans le rôle principal, cet indispensable du film noir wallon, c'est Kilmin.
C'est drôle.
Plume fatale ou meurtre au crayon.
C'est. Non, Kilmin, c'est vraiment le plus drôle. Mais...
Ouais, mais c'est Gérald, je pense, c'est bon.
Oui,
hein.
Oui.
Ah. Moi, je mets le point pour Gérald.
Moi, ouais, je mets le B.
Ah.
Eh bien, il n'y a que. Vous avez dit quoi?
J'ai dit C.
Eh bien, c'est Manon qui a la bonne réponse. Meurtre au crayon. Le titre le plus pourri, c'est celui qu'ils ont choisi. Comment vous n'avez pas vu Meurtre au crayon? Alors, moi non plus. Mais c'est un classique. Un nanar qui aura marqué toute une génération de cinéphiles belges avec des répliques comme, quand même, tenez-vous bien, arrêtez tout ce qui ressemble à un chef. Avec tout ce que...
Vous voulez dire vous?
Arrêtez tout ce qui ressemble à un noir. Chef, on a deux cafés au lait, on les arrête aussi. Ça c'était, ça, c'était du film. Et pour terminer,
ah oui,
en
c'est
hommage...
Bien. C'est ouvertement raciste.
Ah oui, complètement. En hommage à ce bon vieux Serge Charbonneau qui nous avait éclairé l'autre jour sur le concept de justice restaurative, un classique canadien de 2001. Le titre du film annonce la couleur...
Ah, c'est lui qui chante, là.
Ah, évidemment, c'est Serge qui chante, évidemment. Le titre du film annonce la couleur, mais son pitch, vous allez voir, est plus déroutant encore. Il y a en tout cas le symbole d'une époque où la drogue coulait à flot dans les boîtes de production. Le titre, c'est Jesus Christ Vampire Hunter. Jésus-Christ, le chasseur de vampires. Mais le pitch, alors, c'est quoi? Nous sommes en l'an 3000. La Terre a été envahie par des vampires de l'espace qui ont masqué le soleil. Une seule solution, cloner Jésus à partir du Saint-Suaire et mélanger son ADN à celui d'un tueur pour niquer les vampires et sauver le soleil.
Oui.
Ça, c'est la
oui.
possibilité numéro 1. Ah, les vampires sont des traders qui aspirent les économies et l'âme de leurs clients pour rester éternellement jeunes. Jésus doit infiltrer Wall Street, devenue banque du sang, pour les neutraliser.
Okay.
Grâce à une nouvelle opération chirurgicale, les vampires peuvent se faire greffer de la peau de lesbienne et résister au soleil. Le Vatican décide alors de faire appel à son arme la plus redoutable, c'est Jésus.
B, c'est bien.
Hélas, c'est la réponse.
C'est
en même temps, c'était trop pointu pour être faux.
La peau de lesbienne.
C'était surtout trop n'importe quoi.
Et trop pourtant,
c'est ça.
Aussi,
des vampires qui se font greffer de la peau de lesbienne. C'était le pitch de Jésus-Christ, chasseur de vampires. Une réaction, Quentin?
Sparkling.
comme ça
qu'il parlait.
C'est Sparkling du tout. Et c'est la victoire de Sylvie. C'est l'invité qui remporte la mise aujourd'hui. Effectivement. Et je ne sais plus.
Il va jamais passer le test, ce film. On est d'accord.
Il va pas réussir.
C'est-à-dire que se faire greffer de la peau de lesbienne, ça va pas être très bon pour le test, oui.
Non, ça sera effectivement.
Vous êtes perdu, Mathieu?
Je suis perdu, mais pas du tout. Je me suis retrouvé, puisque j'ai retrouvé effectivement la fameuse page 17. Après la parité en politique, lundi, la parité au cinéma. Zoom sur le test de Bechdel cet après-midi avec la productrice Sylvie Piala. Sylvie, on a expliqué que ce test de Bechdel permettait de mesurer le niveau de présence réelle des femmes dans un film. Il ne teste pas, en revanche, la part des femmes réalisatrices. Vous expliquez que s'il y a désormais 36% de femmes qui réalisent leur premier film, ce pourcentage s'effondre sur le deuxième film. Pour quelle raison?
Il s'effondre vraiment sur le deuxième film.
Parce que vous dites, en tout cas, vous dites que souvent, le cap du premier film est difficile à passer.
Pour tout le monde, hein.
Ah oui.
C'est complexe. Disons que le deuxième film, bon, si vous n'avez pas fait ou du bruit ou des entrées,
ouais, c'est difficile.
C'est compliqué.
Attendez, ça c'est très intéressant, je m'arrête là, c'est en dehors de notre sujet. Si un premier film reçoit quand même un succès d'estime, sans faire beaucoup d'entrées.
C'est ça, les festivals, un prix.
Il faut qu'il y ait ça. Sans ça, même si le film est un chef-d'œuvre de, ouais, mais de la vie de sa productrice, par exemple, vous ne donnez pas une deuxième chance.
Ah, si, bon, moi, je donne une deuxième chance aux gens que je produis, en général. Hein, sauf vraiment si on s'est... C'est plus si on ne s'est pas du tout entendu. Ou que, voilà. Mais... Le deuxième film, il est difficile à faire pour tout le monde. Hein. Si vous avez fait un premier film qui a fonctionné, qui a fait des entrées, etc., d'un seul coup, le deuxième film, c'est quoi ? Alors, il faut qu'on fasse mieux, plus cher, plus public, ou au contraire, est-ce qu'on se laisse aller à faire quelque chose qui, justement, est-ce qu'on décide de passer plus inaperçu ? Tout est compliqué. Donc, je pense qu'il faut se laisser aller le plus possible à ce qu'on a envie de faire, en fait. Il ne faut pas faire non plus le film qu'on n'a pas réussi à faire avant, mais qu'on va faire maintenant.
Ah oui,
parce qu'en général, on a évolué, on ne s'en rend même pas compte. Et donc, les sujets passés, ce n'est plus des sujets qu'on a, enfin, qu'il faudrait faire. Mais ça m'étonne, les premiers films de jeunes femmes qui ont du mal à faire leur deuxième. Parce que j'ai l'impression quand même que maintenant, vraiment, il y a beaucoup de premiers films de femmes et qu'elles n'ont pas plus de mal à faire le deuxième
que les hommes.
Vous l'avez évoqué tout à l'heure, Emmanuel Berco réalise en ce moment un film à très gros budget, c'est vous qui le produisez. Est-ce qu'il faut que ce soit une femme qui produise pour qu'un film à gros budget soit aussi réalisé par une femme ? C'est vous qui avez un tandem.
Non, je pense pas. Moi je pense même que le fait que ce soit une femme qui produise pendant longtemps, même quand il y avait tous ces trucs pour qu'il y ait plus de parité, etc., ça a jamais beaucoup joué. C'est vraiment... La bataille est vraiment pour les autrices et les réalisatrices. Ce que je peux comprendre. Mais c'est sur... Je pense pas qu'il faut une femme pour produire une femme, et je pense qu'il y a des femmes qui sont très bien produites par des hommes, et après...
Après, non, franchement, un film à très gros budget réalisé par une femme en France, c'est quand même très très rare.
Oui, c'est rare, mais je vous dis aussi, ce qui est rare, c'est que finalement, elles en écrivent. C'est... Ouais. Donc il y a quelque chose qui fait qu'ils y vont pas quand on le fait, peut-être, mais c'est surtout qu'on le fait pas, en fait. Et voilà.
Il y
a Justine Triet qui tourne aussi un gros film maintenant.
Une autre inégalité, peut-être celle liée à l'âge, l'association des actrices et acteurs.
Je vois pas du tout de quoi vous parlez.
Ouais. Avait lancé un test, le test du tunnel des 50. Il voulait démontrer qu'à partir de 50 ans, les femmes commençaient à disparaître de l'écran.
Ah, ça c'est vrai, pour les
c'est
actrices.
Quelque chose... Mais vous faites attention à ça ou pas ?
Ah, bah moi, elles font beaucoup attention à ça déjà. Mmh. Et puis, enfin, moi, c'est pas du tout un critère. Mais c'est vrai que. Et en même temps, quand vous cherchez une femme de 50 ans, 60 ans, 70 ans, c'est pas facile de trouver non plus des actrices qui ont envie de jouer la rage aussi. Non, mais parce qu'il ça aussi.
Parce qu'Isabelle Huppert, là, vous parliez de...
Ah bah Isabelle, elle est hors concours.
Oui, mais vous parliez de Marion Cotillard tout à l'heure, c'est aussi une nouvelle génération d'actrices.
Bah oui, c'est sûr, mais enfin, je veux dire, c'est...
Non, qui arrive à 50 ans.
Oui, mais je pense qu'aujourd'hui, arriver à 50 ans, c'est moins dur qu'avant. Enfin, je pense qu'on a encore, des rôles, vraiment, parce que c'est pareil aussi, on a quand même des histoires aussi qui... À 50 ans, on n'est plus hors du monde. Il y a ça aussi, c'est-à-dire qu'avant, à 50 ans...
La société évolue, le cinéma aussi.
Oui, et donc forcément, le cinéma suit ça, voire devance de temps en temps.
Vous écoutez Inter, il est 16h46. L'heure de découvrir la pièce jointe de Manon Mariani.
Un réalisateur et producteur américain, on le connaît notamment pour l'une des meilleures séries consacrées à la sexualité et à l'amitié féminine. Sex and the City, évidemment, que l'on doit donc à Darren Star, un des hommes les plus influents de la télévision américaine depuis plus de 30 ans, qui met en scène des personnages féminins, des personnages bavards, imparfaites, ambitieuses. Darren Star a commencé avec une série que l'on connaît très bien, on entend le générique, Beverly Hills 90210, la série emblématique de l'adolescence américaine, où il commence déjà à explorer les relations, la sexualité, les hiérarchies sociales et les attentes pesant sur les jeunes femmes, avec notamment les personnages de Brenda, Kelly et Donna. Mais c'est donc évidemment en 1998 qu'il devient une véritable star avec Sex and the City, Carrie, Miranda, Charlotte et Samantha, quatre héroïnes célibataires new-yorkaises qui parlent ouvertement de sexe, d'argent, de carrière, de solitude et de vieillissement. À la fin des années 90, c'est inédit à la télévision. Sex and the City suscite le débat quand il s'agit du test de Bechdel, car pour beaucoup, elle coche toutes les cases pour le passé sauf une, les quatre personnages ne parleraient que des hommes. Là, je ne suis pas d'accord avec ce verdict, car oui, la série est centrée sur leur recherche de l'amour, mais elle parle aussi de leurs amitiés, de leur carrière, de la place des femmes dans la société, de masturbation aussi, de féminisme. Ce sont des thèmes récurrents dans les séries de Darren Star. Dans son autre série Younger, il met par exemple en scène une femme de 40 ans qui n'arrive pas à trouver du travail après un divorce. Et sa petite dernière, Emily in Paris, parle aussi de sujets variés. À chaque fois, le point d'entrée reste le même, une femme seule face à ses contradictions qui cherche sa place. Darren Star met en scène des femmes de leur époque. Alors oui, il y a des côtés assez superficiels par moments. Oui, Emily est insupportable. Oui, Carrie fait des mauvais choix amoureux. Mais elles restent des femmes indépendantes, fortes et dont la vie résonne avec celles qui les regardent.
Merci Manon, merci d'avoir fait repasser le test de Bechdel à cette série.
Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël sur France Inter.
Des films qui échouent piteusement au test de Bechdel, on en connaît beaucoup, du Seigneur des Anneaux à Star Wars, en passant par À nous les petites anglaises, la Madeleine de Proust de Cyril Lacarrière, qui même en 2026 ne se lasse pas de ses savoureuses répliques à double sens.
Elle est magnifique.
Si vous avez manqué le début de notre émission, Pierre Courade va à présent vous résumer tout ce qu'on s'est raconté en une minute chrono. Pierre, attention.
On va essayer le test de Bechdel. C'est un test qui permet de savoir si les femmes sont bien représentées dans un film. On ne compte pas bêtement le nombre de femmes à l'affiche ou au casting, non. En fait, le test de Bechdel répond à trois critères. Il doit y avoir au moins deux femmes dans le film. Jusque-là, même le Seigneur des Anneaux passerait le test. Mais il faut qu'en plus, elles portent un vrai nom. Deuxième critère, ces deux femmes, c'est un minimum, doivent parler ensemble à un moment donné. Et c'est le cas dans l'opération Cornet Beef, hein, Mathieu. Ah. Il y a un dialogue à un moment donné.
Il ne concerne pas des hommes ?
Non, non, puisque c'est un dialogue entre le lieutenant Fourreau et l'aspirant Garcia. Donc c'est vraiment dans aucun.
J'ai été médine.
Ça dure moins d'une minute. Hein.
Voilà, oui.
Et enfin, dernier critère, ces deux femmes doivent parler d'autre chose que d'un homme, comme dans l'opération Cornet Beef. Donc, autant dire que si la vie de notre rédaction était un film, il ne passerait pas, lui, le test de Bechdel. En
ça
tout cas,
sûr.
Pour notre invitée, la productrice Sylvie Piala, même sans utiliser ce test stricto sensu, il lui arrive de rejeter des films où les rôles féminins ne sont pas mis en valeur. Mais aujourd'hui, surtout depuis MeToo, la présence des personnages féminins qui répondraient au test de Bechdel s'impose naturellement. En fait, d'après notre invité, la vraie révolution, c'est l'arrivée des femmes scénaristes et réalisatrices qui montent des films qui ressemblent à leur quotidien, ou en tout cas qui leur parlent. D'ailleurs, un film où l'on voit deux femmes discuter d'autre chose que d'un homme ne peut pas sérieusement être taxé de féminisme. C'est un dialogue normal, et donc un film normal. Passer cette normalité, place à l'artistique et à la magie du cinéma.
La magie
c'est
du
beau.
Cinéma.
Ah.
Quelle belle chute, mon cher
beau,
Pierre. Et pour que son nom sorte un jour d'une enveloppe, il faudra déjà passer l'étape de la nomination. Étape critique, on n'y est pas encore. Je vous présente Harold Barbet.
Alors moi, je suis excité, comme je vous l'ai dit, parce que la semaine prochaine, c'est les Césars.
T'as l'air, oui, t'as l'air très excité.
Moi, j'adore les Césars. Je rate jamais une édition. Je regarde et je suis à fond. Je bouffe des trucs soufflés en faisant semblant de m'y connaître en cinéma français. Tu vois, je l'adore, cet acteur. C'est le responsable de la sécurité, Harold. Bah, il pourrait être acteur. Tu pourrais même me vendre un film qui n'existe pas. La Dame au parapluie violet. Mais évidemment que je l'ai vu, bien sûr, c'est bouleversant. Ça m'a donné envie d'aimer la pluie. Tiens. Je suis à fond avec le maître de cérémonie. Je rigole à tout, je lui donne de la force. Moi, je rêverais de présenter les Césars. Puis après tout, j'ai été maître de cérémonie en pompe funèbre 198 fois. Les gens qui font la gueule, je connais. Donc, il est dur, le public des Césars. En moyenne, le taux de transformation en rire de tes blagues aux Césars est 170% inférieur à celui de n'importe quel clampin qui anime un mariage avec un PowerPoint. Dans les jours qui précèdent les Césars, ma vie c'est comme une cérémonie. Chaque jour, j'ai l'impression d'ouvrir une nouvelle enveloppe et je sais jamais sur quel type de journée je vais tomber. Aujourd'hui, par exemple, je suis allé chez l'allergologue et il a ouvert l'enveloppe devant moi pour dévoiler le résultat de mes tests. Putain, j'étais à fond. Et l'allergie est attribuée à les acariens. Ah bravo ! Ah bravo ! Et j'imaginais tous les acariens en nœud papillon se congratuler avant de monter sur scène avec une voix off qui commande par-dessus. Les acariens remportent cette distinction pour la première fois pour cette exploration subtile et profonde des muqueuses d'Harold. Une œuvre qui dérange et qui fait pleurer.
Du coup, je veux bien être la voix off des Césars.
Mais je devrais. Du coup, je suis reparti avec ce petit fascicule. Je suis allergique aux acariens. Et alors, comme si j'avais le sida ou que j'étais accro à l'héroïne. Et bah, ça m'a libéré d'un poids. Je veux dire, enfin, dans ma vie, je peux me plaindre de quelque chose. J'ai une condition maintenant. I have a condition. En sortant, je croise un SDF qui me dit qu'il a faim. Je sais pas, moi, je peux même pas m'allonger sur une grille de métro, il y a des acariens, donc chacun ses problèmes. Ce petit fascicule, je vais le brandir partout. C'est mon badge du FBI. Genre, si j'ai pas une entrée gratos pour Disneyland avec ça, je comprends pas. Je vais le mettre sur mon rétroviseur de bagnole. Je vais enfin pouvoir me garer sur la place handicapée devant l'école.
Oh,
bah, c'est toujours la mère du petit Matisse qui l'apprend. Mais une allergie aux acariens, rien, ça me semble quand même plus grave qu'une sclérose en plaques, faut pas déconner. Sylvie, je suis prêt à céder les droits de mon histoire pour le cinéma. Ah. Je vois bien The Rock jouer mon rôle. Je vais l'écrire à moi-même, ça va s'appeler « Démangeaison un soir d'hiver ». Ça, c'est César direct. En plus, avec les Acariens, tout le monde est concerné, donc ça passe le test de Bechdel easy. J'ai hâte. Il y aura Jim Carrey cette année au César. J'adore Jim Carrey. Il va recevoir un César d'honneur pour l'ensemble de sa carrière. Bon, dans sa carrière, il n'a jamais rien fait en rapport avec le cinéma français. Mais c'est pas grave. Vous imaginez le somme de Gilles Lelouch, s'il est dans la salle, à voir que Jim Carrey reçoit un César. Lui, 8 nominations, il n'en a jamais gagné. Hein. Oh. Bah ouais, mais fallait faire comme dans Dumb and Dumber et péter sur un briquet si tu voulais gagner, mon filou. Par contre, j'espère que quelqu'un l'a prévenu, Jim Carrey, comment ça se passe, les Césars. Où est la caméra? Jim, ne sois pas surpris. Si on place dans ta main un morceau de Dell Avant compacté de Citroën Saxo jaune, c'est ça le prix. Donc, c'est pas la peine de faire semblant de l'oublier. En plus, il y aura tellement de gens pour te lécher le cul que ça sera impossible de le laisser derrière toi. Pour conclure, je vais reprendre cette phrase de Tarantino. Va la Zanama. Enfin, je crois que c'est ça qu'il a dit. Personne n'est vraiment sûr. En vrai.
La raison, c'est pas. Allez, merci beaucoup, mon cher Harold. On vous retrouve après les vacances. Dans une allez, ça parce que, je dis ça parce que j'ai un œil sur le chrono, vous savez. Professionnalisme oblige. Évidemment, Harold, on a passé un bon moment. Maintenant, il est temps effectivement de partir. On vous retrouve après les vacances dans Zoom Zoom et surtout sur scène le 7 mars à Angers, le 20 mars à Rouen et le 26 mars au Point Virgule à Paris. Merci Harold, merci à vous Sylvie Piala de nous avoir expliqué l'intérêt du test de Bechdel. Je rappelle que vous êtes à la tête des films du Warsaw, votre boîte de production. Et je vous dis merde pour la semaine prochaine puisque votre dernier film, Partir un jour, réalisé par Amélie Bonin, est nommé 4 fois au César, on l'a dit. Zoom Zoom Zen.